Paf, le magazine. Paroles d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette émission, nous accueillons une femme. Le thème, l'allongement de la vie, ce que je nomme la métamorphose oubliée. Un livre majeur à lire. Si vous ne pouvez l'acheter, alors demandez-le à votre bibliothèque, à votre médiathèque, car ce livre, l'allongement de la vie, quel défi, quelle politique, 29 auteurs, qui est paru à la fin 2017 aux éditions La Découverte, 413 pages, est un livre exceptionnel. C'est le livre pour moi le plus remarquable que j'ai lu sur ce sujet. Un panorama de qualité sur ce qui bouleverse la condition humaine et sociale, j'allais dire tout simplement ce qui bouleverse la vie. Chers auditeurs, la femme qui a coordonné le travail passionnant à lire et à relire, c'est Anne-Marie Guillemard, professeure des universités à la Sorbonne. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Michel.
Voilà, merci beaucoup d'accepter cet entretien en direct sur Agora Côte d'Azur, qui est une radio régionale et qui a une vocation de plus en plus internationale, où elle est reconnue de plus en plus. Vous êtes à Paris, moi je suis à Grasse, cette capitale du parfum honorée par l'UNESCO récemment, et les auditeurs sont de la région, de France, et avec le relais ensuite de l'émission sur un site, du monde entier. Par respect pour vous, par respect pour les auditeurs, je vais concentrer mes questions pour vous laisser le plus de temps pour répondre en direct. Alors, je vais commencer par trois questions, Anne-Marie. Votre parcours, l'origine de ce travail et l'essentiel de l'apport de ce livre. Vous avez la parole.
Merci, Michel. Alors, mon parcours, eh bien, il démarre avec ma thèse, qui a été publiée sous le titre « La retraite, une mort sociale » en 72. Donc, je suis sociologue, donc c'est une étude sociologique, mais c'était un peu pionnier à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose sur ces questions de retraite. Et ce qui est résulté de ce travail, de cette recherche de plusieurs années, très quantitative aussi à l'époque, c'était que le monde de la retraite n'était pas du tout un monde unifié. C'était au contraire un monde extrêmement hétérogène, avec des conduites très diversifiées. Donc loin d'être un nouvel âge, la retraite, à l'époque, c'était mon constat, une grosse démonstration, il y avait une volonté explicative, c'était de dire que la retraite n'est que l'aboutissement finalement d'une chaîne de déterminismes sociaux. Aux uns, la civilisation des loisirs, donc cette idée de troisième âge qui était déjà à l'époque une nouvelle appellation pour cette période de la vie. Donc une certaine idée du bonheur autour de la retraite. Mais c'était ceux qui occupaient une position plutôt privilégiée dans le système productif et qui avaient pu accumuler un certain nombre de ce que j'appelais les ressources, c'est-à-dire de la santé, du revenu, un environnement social intense, important, un environnement de relations sociales. Et puis aussi, à niveau d'éducation, ça c'est ce que j'appelais les biens, les potentialités plutôt, à niveau d'éducation, à niveau culturel, etc. Donc, les moins pourvus, finalement, et les ouvriers, en gros, étaient promus à une mort sociale. C'est pour ça le titre du livre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les ressources pour transformer le temps vide de la retraite en temps autonome, organisé selon leur choix. Et donc, c'était finalement les comportements de ce que j'ai appelé l'entretien du biologique, les repas, le sommeil qui rythmait la vie, mais il n'y avait pas, il n'y avait plus de déterminisme sociaux, il n'y avait plus de vie sociale, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la retraite une mort sociale, donc qui était réservée à certains seulement. Et puis après, j'ai revisité 30 ans après cette recherche à la demande de Gérontologie et Société, et où j'ai développé l'idée, parce que le temps était passé et la situation des retraités s'était améliorée, donc l'idée d'une retraite solidaire, ce que j'ai appelé une retraite solidaire, qui était liée au fait que certains retraités avaient pris conscience de leur situation segrégée, de mise à l'écart, et qu'ils refusaient d'être catégoriés comme des inactifs à charge et donc nécessairement en marge. Donc il y avait là l'idée qu'ils voulaient rester dans la vie, c'était ce qu'on entendait à l'époque. Et du coup, ils s'engageaient à la retraite dans des activités de bénévolat, de vie associative, etc., pour manifester leur volonté de ne pas être mis à l'écart et de ne pas être promis à une mort sociale. Et à travers ces travaux, cette succession de travaux, ce qui apparaît, c'est que j'ai essayé de comprendre l'avancée en âge comme un processus continu et évolutif en fonction des cadres sociaux. Donc j'ai toujours eu le souci de ne pas me cantonner à l'étude de la vieillesse. Depuis 72, depuis ce premier travail de thèse, j'ai refusé, pour les raisons pour les résultats, à cause des résultats sociologiques de cette étude, j'ai refusé de me cantonner à l'étude de la vieillesse parce que, à l'évidence, on ne pouvait rien comprendre si on s'en tenait à la vieillesse. Donc, la vieillesse, je l'ai prise comme une position relative dans le parcours des âges, et qu'il fallait replacer dans tout le système social des âges et dans les transformations sociétales qui recomposaient ce système des âges et qui modifiaient la signification sociale de tous les âges.
C'est alors, très clair, après, Anne-Marie. Alors oui. Continuez, parce que votre origine, oui, votre thèse et votre parcours est passionnant. Vous prenez une position à l'égard de la vieillesse et vous parlez, voilà, de la position des âges de la vie.
Voilà. Alors, donc, mais j'avais été nourrie par la sociologie du life course à l'époque, qui étaient les pionnières américaines comme Bernice Newgarten, Matilda, oui, Riley, etc. Mmh. Et ce qui m'avait amené, conforté, disons, dans cette position qu'il fallait travailler sur et réfléchir sur les parcours de vie. Alors après, j'ai travaillé plus spécifiquement sur l'emploi des seniors, avec toute une série de travaux qui ont marqué aussi mon intérêt pour la comparaison internationale à partir de 91, avec une recherche sur l'emploi des seniors, sur les pré-retraites, etc., qui s'appelait Time for Retirement. Et puis, progressivement, donc l'emploi des seniors, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était des transitions, bien sûr, c'était d'analyser avant-après la retraite. Et donc de prendre la retraite comme dans tout un processus de développement de carrière. Et comment cette mise à l'écart, notamment avec les pré-retraites en France, mais dans d'autres pays aussi, se jouait bien en amont de la retraite et bien en amont de cette transition. Et ensuite, bien tout naturellement, j'en suis venu à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la longévité. Et il m'est apparu que cette question de la longévité, qui était en train de révolutionner le 21e siècle, enfin le 21e siècle sera peut-être majoritairement le siècle où nous allons vivre 100 ans. Les derniers éléments nous disent que les enfants, pour les enfants nés en 2030, la moitié pourrait être centenaire. Donc c'est devenu un nouvel horizon d'existence. Et nous n'avons que très peu réfléchi. Et ce que je voulais marquer dans ce livre, c'était la différence, enfin qu'il fallait distinguer, même s'ils étaient très liés, distinguer vieillissement et longévité, qui étaient largement confondus. Et on le voit encore aujourd'hui avec la réflexion sur la dépendance et comment on va la prendre en charge, qu'occupe le gouvernement. Eh bien, justement, je voulais montrer que la longévité, ce nouvel horizon de vie, doit être différencié du vieillissement, même s'ils sont très en lien, puisque la longévité explique en partie le vieillissement de la population. Ça doit être différencié parce que la longévité nous amène à relever des défis multiples qui sont, j'en donne un exemple rapide, c'est par exemple la coexistence, phénomène tout à fait nouveau, de 4 générations et non plus seulement 3. Ce qui pose en lien avec ça la question de la protection sociale. Nous avons construit un système de protection sociale en 1945 avec la sécurité sociale et tout ce qui a suivi ensuite, mais qui était fondé sur 3 générations coexistantes. Et du coup, par exemple, notre système de retraite, mais tout le reste, construit sur la solidarité entre les générations, système de retraite par répartition suppose ça, et comment ça se joue entre 4 générations et non plus seulement 3. Et là, on s'aperçoit que il faut refonder, repenser ce contrat, ce pacte de solidarité générationnelle qui, du coup, s'est trouvé profondément altéré et jugé inéquitable, à juste raison d'ailleurs.
Donc, votre livre, c'est ce travail sur l'allongement de la vie. Que faut-il retenir surtout, Anne-Marie ?
Alors, je crois que le livre, je l'ai construit autour de 3 défis majeurs. D'une part, un nouveau régime temporel d'existence qui est né avec l'allongement de la vie et qui suppose la mise en œuvre d'un nouveau mode de régulation des parcours de vie. Qu'on a géré très largement les autorités publiques, comme les entreprises, ont géré très largement les générations successives à l'aide d'une gestion par l'âge, je pourrais dire. Et maintenant, il faut gérer les parcours, et non plus seulement l'âge. Donc il y a un âge de retraite, un âge... Mais aujourd'hui, un âge légal de départ à la retraite, un âge légal de retraite, n'a plus grand sens. Donc, un mode de régulation par les parcours et non plus l'âge. Et ensuite, dans ce nouveau régime temporel d'existence, ce qui m'apparaît, c'est que c'est pas seulement l'horizon de la mort repoussé. Ça, ce serait la grande vieillesse, on va plus loin. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la longévité amène à une transformation de tout le processus du grandir-vieillir et de toutes les significations sociales des âges qui étaient construites antérieurement, autour du rythme à 3 temps. Les jeunes en éducation, les adultes au travail et les vieux à la retraite. Eh bien, ce rythme à 3 temps ne vaut plus aujourd'hui. Le parcours est beaucoup plus complexe et différencié d'un individu à l'autre. Donc l'âge n'est plus une dimension unique et standard qui permet de définir une situation homogène pour les individus. Et donc qui ne permet pas de fixer une politique publique cohérente qui répondrait aux besoins de ces individus, puisqu'aujourd'hui, à même âge, ils sont différents. Si vous prenez un homme de 50 ans, là, peut être en parentalité tardive, et donc ne pas avoir le même souhait quant à la stratégie de retraite que celui qui est en phénomène de nid vide, parce que les enfants sont élevés, mariés, et donc il est à nouveau en couple. Donc vous avez des stratégies très différentes de retraite et des attentes à l'égard de la retraite très différentes selon ces cas. Ils ont tous les deux le même âge. Donc, ça veut dire que l'âge n'est plus pertinent pour gérer et réguler les parcours de vie des individus. Deuxième défi, la protection sociale à repenser, je l'ai évoqué, pour l'adapter aux nouveaux profils de risque sur le parcours de vie. Ce qu'on constate, c'est par exemple la pauvreté qui était en 45 du côté des personnes âgées. Les personnes âgées étaient les plus pauvres de la nation. Et c'est bien pour ça qu'on a construit les retraites, etc. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont les plus à risque de pauvreté dans notre société. Donc, de nouveaux profils de risque sur le parcours de vie et donc des réponses qui doivent être beaucoup plus préventives que curatives, ce que on sait qu'en France, on a un peu de mal avec cette logique préventive. L'allongement de la vie fait qu'il y a beaucoup plus de maladies chroniques et que ces maladies chroniques, il faut bien il faut bien agir en amont pour éviter qu'elles deviennent invalidantes plus tard.
Et la troisième dimension ?
Et le troisième, alors troisième, c'est celui qui me paraît le plus important, le troisième défi, le plus important, c'est refonder le pacte de solidarité entre les générations, parce que quatre générations coexistantes, ce que nous avons construit en 45 a été, c'est dégradé. Et il n'est plus équitable parce que ce que nous avons construit en 45 qui était mutuellement profitable pour toutes les générations, pour les trois générations coexistantes, aujourd'hui n'est plus mutuellement profitable et on dit les retraités sont les jeunes retraités sont les mieux nantis, etc. Ce qui est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous avons fait comme réforme des retraites, et Dieu sait si on en a fait dans les 10 dernières années, n'ont pas pris en considération ce pacte de solidarité entre les générations qui sous-tendait notre système de retraite par répartition. Et donc, alors, il est urgent.
Anne-Marie, nous allons marquer une pause. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour ce pacte de solidarité. Et nous allons écouter une musique et je vous dirai d'où elle vient et ce qu'elle signifie au début de la deuxième partie. À tout à l'heure, Anne-Marie. À tout à l'heure, chers auditeurs.